Bonjour à toutes et à toutes. Merci d'ores et déjà d'être venus aussi nombreux à cette rencontre avec l'amiral Jean-Philippe Roland, amiral donc au sein de la Marine nationale française, qui est venu discuter avec nous du référentant dans le cadre justement de la marine, des opérations militaires et de tout un tas d'autres choses. Amiral, pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer votre parcours ?
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette occasion unique de pouvoir m'exprimer dans ce salon qui est vraiment passionnant pour le temps que j'ai pu y passer. Oui, donc je suis dans la Marine nationale depuis l'année 1983 et je suis un officier des forces de surface, spécialisé plutôt dans les missiles et les opérations des frégates et du porte-avions Charles de Gaulle. Donc j'ai eu la chance de commander à 4 reprises, dont le Charles de Gaulle, pendant les affaires de Libye en 2011. Et actuellement, je commande la force d'action navale. Qu'est-ce que c'est que la force d'action navale ? Ce sont les bâtiments de surface de la marine. Voilà. Et dans des fonctions plus d'état-major, j'ai pas mal travaillé sur la préparation de l'avenir dans un cadre marine, donc les futurs équipements de la marine, et également dans un cadre interarmé, c'est-à-dire à la fois les moyens pour l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, mais aussi les services de renseignement, les moyens de commandement et les moyens de tout ce qui est environnement, soutien pour les forces en opération. Voilà.
Alors, merci beaucoup. Vous avez été donc commandant par rapport au Charles de Gaulle, donc plutôt la Méditerranée. Et pour ma part, pour commencer toute cette série de questions, je vais rebondir. Alors, nous allons avoir beaucoup de bons temporels tout au long de cette intervention. Par rapport à un article qui vient de paraître dans le journal Le Monde sur la frégate multimission Auvergne qui a été expédiée donc en mer de Chine. C'est un article paru au 1er novembre qui raconte en fait le quotidien de ces hommes sur cette frégate chargée justement de patrouiller et de montrer la présence française auprès de la Chine, auprès d'îles qui sont farouchement disputées actuellement tant par la Chine que par tout un tas d'autres pays, et en même temps de regarder si tout se passe bien. Ça, là, on parle, j'allais dire, de routes maritimes, de projection de puissance, de navires, deux superpuissances s'observant l'une l'autre. La présence américaine est très, très prononcée et très marquée dans le secteur. Donc, l'une de mes premières questions, c'est pouvez-vous nous en dire plus sur la présence française par là-bas et nous expliquer un peu, par rapport à cette frégate, quel pourrait être le référentant par rapport à eux. La frégate part quand en France ? Comment arrive-t-elle là-bas et quel parcours peut-elle faire et dans quel état finalement ça influe sur psychologiquement et physiquement sur l'équipage ?
Oui, merci. Alors ça peut paraître un peu surprenant effectivement que des moyens de la Marine nationale se trouvent aussi loin qu'en mer de Chine, mais je vais m'appuyer pour répondre à votre question sur une vue si ça veut bien défiler. Voilà. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut plus se désintéresser évidemment du grand large et du lointain parce que notre société est ouverte sur le monde. Notre économie tourne évidemment en étant connectée sur le reste du monde. Et comme c'est indiqué sur cette vue, les grands traits rouges sont les principales routes maritimes mondiales. Et sur ces routes, vous le savez, bien par exemple, l'essentiel de nos hydrocarbures vient du golfe arabo-persique. Donc Hormuz, Bab el-Mandeb, Suez sont des espaces importants. Les produits manufacturés viennent beaucoup, vous le savez, d'Extrême-Orient, de Chine en particulier. Et donc nos produits de consommation quotidien sont très largement achalandés par des importations de Chine. Et nous exportons aussi vers là-bas, bien sûr, beaucoup de choses. Et le fait de garder ces routes ouvertes est tout à fait essentiel. Qui plus est, et pour revenir plus particulièrement sur la mission de l'Auvergne, l'Auvergne, c'est une des dernières frégates de mise en service de la marine et qui va faire un déploiement de longue durée. Donc là, on est dans la constante de temps long. C'est la première fois qu'elle part très longtemps parce que c'est une des spécificités du métier de marin en général, c'est de partir loin et longtemps et en équipage. Et donc un nouveau bâtiment, on va le tester, on va l'éprouver en le faisant partir loin. Donc il y a déjà cette idée d'aller chercher d'autres climats, d'autres conditions d'environnement, de la chaleur, de l'humidité, pour vérifier que notre bateau fonctionne bien. Ça, c'est un peu l'aspect vérification des caractéristiques et des performances du bateau. Mais il y a aussi, bien sûr, derrière une dimension stratégique et géopolitique. La mer de Chine méridionale, vous le savez, est revendiquée par de nombreux pays pour ce qui concerne un certain nombre d'îlots. Et aujourd'hui, il y a des contestations fortes avec une remise en cause de certains principes du droit de la mer par des grands acteurs. Et la marine nationale est un outil à la main de l'autorité politique pour là-bas aller affirmer notre attachement à ce que le droit de la mer soit respecté et qu'il n'y ait pas des détournements qui soient faits de ces grands principes et finalement des territorialisations de fait de la mer. Vous avez aujourd'hui des récifs coralliens sur lesquels ont pu être coulés ou apporter des pierres et couler du ciment, voire construire des pistes d'atterrissage et qui de fait transforment ce qui est au départ un récif en terre émergée, et ce qui ouvre le droit du fait du droit de la mer à des intérêts, à des possibilités d'exploiter au plan économique l'environnement sur des très grandes distances, hein, 380 km, autour de ces points émergés. Donc vous avez une forme d'appropriation de fait qui peut intervenir. Donc nous, notre rôle dans cette mission-là, c'est d'aller montrer qu'en allant naviguer dans des endroits qui, pour certains, pourraient être considérés comme étant leurs eaux, on montre que c'est toujours des eaux internationales dans lesquelles on peut transiter de façon inoffensive. L'idée n'est certainement pas de provoquer une escalade de la violence, mais calmement, en allant voir un petit peu quelles sont les réactions des différentes parties prenantes, d'aller affirmer notre attachement. Tout ça, c'est loin, mais comme vous le voyez sur cette carte, n'oublions pas que la France est présente sur tous les océans. À travers nos départements, régions, collectivités d'outre-mer, bah, vous voyez, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, on n'est pas très très loin finalement, à l'échelle bien sûr du globe, hein, de ces zones. Ce que vous voyez aussi sur cette carte, et ça c'est le marin qui peut vous le dire, et je pense qu'à Nantes c'est un discours qui peut être bien entendu, c'est que la mer c'est quand même plus de 70% de la surface du globe, et qu'aujourd'hui c'est un espace très largement de liberté, puisque il y a au-delà des 12 000 marins, au-delà des côtes, il y a peu de réglementations qui s'appliquent, hein, hormis ces affaires de possibilités pour l'État côtier d'exploiter les ressources économiques, en tout cas au plan légal, au-delà des 12 nautiques, ça ne fait plus partie à part entière du pays. Et donc, on est très attaché à ce que ces zones de liberté, qui sont pour nous, militaires, des zones extrêmement précieuses pour déployer des manœuvres stratégiques, pour pouvoir se déplacer, mais que ces zones de liberté ne deviennent pas des zones de non-droit. Et donc, il faut occuper ces espaces. Je prends juste un autre exemple, sans être trop long, mais il y a un endroit qui se trouve entre Madagascar et l'Afrique, où nous avons les îles Éparses, qui sont des terres qui sont constitutives du territoire français, où il n'y a pas d'habitants en permanence, mais vous avez là-bas beaucoup de ressources halieutiques, beaucoup de poissons, et très souvent, on y trouve des pêcheurs étrangers qui agissent en parfaite illégalité. Et nos ressources, évidemment, si on n'est pas présent, elles seront pillées. Et ce qui est pillé est après contesté. C'est-à-dire qu'on nous contestera, si on n'applique pas les lois et les règlements, on nous contestera finalement notre souveraineté sur ces îles éparses qui sont tout à fait importantes pour nous, d'ailleurs en particulier parce qu'il y a potentiellement des ressources importantes dans ce coin-là. Donc les enjeux finalement, ils sont bien sûr d'abord des enjeux de défense pour la Marine nationale, c'est-à-dire protéger notre territoire, protéger nos approches maritimes, protéger nos départements et collectivités d'outre-mer, protéger nos concitoyens, mais aussi protéger nos intérêts, défendre nos intérêts, et cette défense des intérêts s'entrevoit dans une perspective longue. On ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe au grand large. Voilà. Alors, sur les constantes de temps, il faut à peu près 30 jours tranquillement pour rallier la mer de Chine méridionale à partir de Toulon et le port d'attache de l'Auvergne. Ce sont des missions qui vont durer au total à peu près 4 mois et demi pour la frégate, et l'équipage passe à peu près une dizaine de jours en mer et fait un arrêt en escale pour faire les petits travaux, parce que forcément il y a des petites mises au point, il y a des rechanges à récupérer, du ravitaillement en vivres à faire. Mais un bâtiment, si jamais il est engagé sur une opération, peut basculer sur une logique de plus longue durée, évidemment. Par exemple, une frégate peut parfaitement faire rester un mois et demi à la mer s'il y en a besoin. Et les exemples ultimes dans la marine, c'est effectivement le Charles de Gaulle qui, comme il est unique, est amené souvent à rester très longtemps à la mer. Moi, j'ai eu la chance de le commander, vous l'aviez rappelé, et pendant l'enchaînement des affaires Golfe Persique, opération en Afghanistan, puis Libye, sur l'année 2010-2011, sur l'année scolaire, on était resté 9 mois en mer. Alors, bien sûr, quelques escales, mais assez rares, il faut le reconnaître. On avait passé beaucoup de temps à la mer, et avec ces 9 mois étant juste interrompus par 3 semaines à Toulon, à peu près au milieu. Donc ça, on est dans le temps long, on est dans le temps qu'il est difficile parfois de soutenir lorsqu'on n'est pas habitué, parce que forcément, quand vous partez en mer, que vous êtes au milieu de l'océan, vous n'avez plus de connexion avec ces petites choses, vous avez toujours accès à Internet ou à des mails pour correspondre avec votre famille, mais il faut se partager les consoles parce qu'il n'y en a pas un nombre infini. Il y a une ressource satellitaire qui est utilisée pour laquelle on donne évidemment la priorité aux opérations, donc il faut être parcimonieux et faire attention.
Alors, je vais rebondir sur beaucoup de choses dans tout ce que vous venez de dire. Tout d'abord, volonté politique. Tout d'abord, carte. pour pouvoir arriver à une référence temps. Donc le temps de la marine, si j'ose dire, c'est un peu au niveau français Richelieu. Auparavant, nous n'avons pas finalement un objectif maritime quel qu'il soit. Nous n'avons même pas, pour ainsi dire, l'idée d'une flotte militaire ou commerciale. Donc c'est l'un des premiers grands personnages qui commence à réfléchir justement à la mise en place d'une flotte pour pouvoir montrer que la France est à la fois une puissance terrestre et maritime. Au niveau des grandes découvertes, ça me permet de sauter aussi sur le temps comme référence. Ce sont les cartes. La carte que vous nous montrez ici, nous avons, pour ainsi dire, une importance primordiale dans les grandes découvertes. Que ce soit finalement Cartier au niveau du Canada ou tout un tas d'autres choses. Vous parlez justement d'îles. À l'origine, la majorité des îles ont été découvertes pour pouvoir poser des bases maritimes. Ça, on le voit notamment dans le Pacifique au niveau de la puissance aéronavale qu'est les États-Unis. Il y a une avancée, par exemple Pearl Harbor, c'est une base qui a été faite à l'origine pour pouvoir au cuirassé de se ravitailler, que ce soit en charbon ou en autre. Ça permet, comme vous dites, de faire des pauses. Donc on est toujours dans le référent temps. Donc par rapport à ce temps, finalement, comme référence, où on est dans la très longue durée, pouvez-vous nous parler justement de l'impact et de la création de ces cartes, de cette cosmologie finalement, de cette découverte qui aboutit finalement à nos jours, comme vous dites, à des cartes soit faites par satellite ou tout à fait autre chose.
Oui, alors là je vais aller m'appuyer sur une image un petit peu plus lointaine, celle-ci. Alors il est vrai que Richelieu a été vraiment l'initiateur de la Marine nationale. Je corrige juste un petit point, puisque pendant la guerre de Cent Ans, on a l'amiral Jean de Vienne à la flotte des Galets qui a eu quelques actions, mais c'était très défensif et très circonstancié. Puis après, il y a eu un grand trou noir jusqu'à la Renaissance, enfin la vraie naissance de la marine avec Richelieu. Mais là, on est donc 17e siècle. 18e siècle, ces deux siècles-là, c'est vraiment évidemment la démultiplication des découvertes, hein, puisque après 1492, Magellan au début du 16e siècle, puis ça s'enchaînera après 17e, 18e, mais il faut bien se rendre compte qu'en France, on a quand même été assez lent et assez long à rejoindre ce rythme-là. Il s'est passé plus de temps entre Magellan et Bougainville, fin 18e siècle, premier marin qui, dans une campagne officielle française, fait le tour du monde, qu'entre Bougainville et aujourd'hui. C'est pour vous donner une idée. Mais ça, si je reviens maintenant sur les affaires de temps, le temps pour les marins, c'est bien sûr le temps qui est long, qui est parfois dur à supporter. Alors, je parlais tout à l'heure des durées des missions, mais là, j'ai mis volontairement une ampoule en haut à gauche sur cette image. L'ampoule, c'est un sablier. C'est un sablier qui dure 30 minutes. Et toutes les 30 minutes sur les bateaux de la navire à voile, on retourne le sablier. Puis quand on l'a retourné 8 fois, c'est 4 heures et on fait la relève de quart. Et ça, vous voyez, le sablier, c'est incontestable. On ne risque pas de tricher. Normalement, il est indiscutable. Et donc, il y a un coup de gong qui est donné pour que les marins qui sont dans la bordée sur le pont sachent que voilà, il y a une demi-heure qui s'est écoulée. Cette ampoule, pour la petite histoire, moi, je l'ai sur mon bureau, pas celle-là, mais une similaire, et c'est l'unité de base de mes micro-réunions. Moi, je veux pas que ça. Donc, on raisonne en ampoule. Quand il y a vraiment un gros sujet, on fait deux ampoules, mais on essaie de tenir en une ampoule. Voilà. Alors, après, pourquoi est-ce qu'il était important de maîtriser le temps? Autant, certains d'entre vous naviguent, je pense, mais autant en mer, il est assez facile de déterminer la latitude du lieu. Alors ici, on doit être à peu près en 45 nord, un peu moins de 45 nord. Bon, autant la longitude, elle est beaucoup plus difficile à mesurer. La latitude, il suffit de regarder à peu près la hauteur du soleil à midi et vous en déduisez un repère grossier suivant vos moyens d'observation en latitude. Pour la longitude, il faut disposer d'une horloge extrêmement précise. Il faut poser une mesure du temps très précise. C'est-à-dire qu'observer, par exemple, l'heure à laquelle le soleil se couche ou l'heure à laquelle le soleil atteint le sommet de justement sa méridienne, tout ça, ça vous permet, et de mesurer des droites de hauteur, ça vous permet de faire des calculs qui vous détermineront la longitude. Et ça, c'est ce qui fait qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, ceux qui étaient capables d'avoir des mesures de temps précises avaient le pouvoir. Typiquement, en bas à gauche, vous avez une horloge faite par l'horloger Berthoud, horloger du roi. Voilà, on est au XVIIIe siècle. On est au XVIIIe siècle et Berthoud est allé s'inspirer des horloges britanniques et suisses un peu aussi déjà, et qui étaient plus précises. Et celui qui était capable d'établir une cartographie précise savait où il pouvait faire passer ses vaisseaux, savait où il pouvait contourner les caps, même quand il faisait mauvais, même quand c'était la nuit, et pouvait comme ça petit à petit, effectivement, découvrir le monde et développer des comptoirs commerciaux, développer des routes, etc. Donc la notion du temps, elle était tout à fait essentielle. Et vous voyez, sur cette carte, finalement, on reconnaît grosso modo quand même les continents, mais on voit qu'ils sont très déformés, et en particulier parce que la mesure de la longitude est imprécise. Alors, évidemment, depuis lors, on a énormément progressé. Maintenant, on a des horloges atomiques, et la référence de temps qu'il y a sur les bateaux, elle est principalement aujourd'hui, dans une logique de compatibilité avec notre environnement extérieur, elle est principalement calé, bien sûr, sur les signaux de temps que nous fournissent les systèmes de navigation par satellite. Vous savez qu'il y a une référence temps qui est donnée par les satellites des constellations qui sont dans l'espace. Mais on garde toujours à bord une référence temps propre des horloges électroniques déconnectées de tout le reste et qui nous permettent de faire nous-mêmes, de garder une référence de temps fiable. Pour naviguer, vous avez, au grand large, hein, je ne parle pas en navigation côtière, en navigation à vue, mais vous avez effectivement aujourd'hui, à l'époque moderne, deux possibilités. Dépendre d'un moyen externe, je dépends d'une constellation de satellites pour naviguer par satellite, j'ai besoin d'un temps bien précis qui soit cohérent avec le temps de référence pour ce système, par exemple le GPS ou Galileo. Bon. Et après, on a aussi, en particulier sur les bâtiments de guerre, un système de navigation propre qui est basé sur des centrales inertielles. Et ces centrales inertielles mesurent des accélérations, vous savez, avec des accéléromètres, des gyromètres. Et ces accélérations, pour arriver à une position, qu'est-ce qu'il faut ? Ben, il faut une position de départ et puis après une double intégration temporelle de ces accélérations pour mesurer un point, pour entretenir un point. Mais ces centrales inertielles, d'abord, il faut qu'elles soient très précises, on n'arrête pas de progresser. Et puis, malgré tout, elles peuvent dériver dans le temps. Donc, de temps en temps, il faut les recaler. Voilà. Mais on est quand même en mesure, si vous voulez, si on le souhaite, de pouvoir entretenir une position de référence grâce à un temps de référence que l'on ait une fiabilité forte dans ce temps par moyen propre avec ces centrales inertielles. Et donc, aujourd'hui, bien sûr, les cartographies précises, les émergences éventuelles de nouvelles terres dans le Pacifique, dans les zones coralliennes, tout ça, le satellite aide aussi à les détecter, à les mesurer, à les positionner finement. On fait des recalages importants. Je me souviens au début de ma carrière, en faisant l'hydrographie dans les Marquises, on s'est rendu compte qu'une des îles des Marquises, par exemple, était décalée de 500 mètres par rapport à sa position exacte. Bon, voilà, les relevés, les levées hydrographiques, ils dataient de la fin du 19e siècle. Bon, à l'époque, ils avaient, et c'était d'ailleurs en longitude l'écart, ils avaient une référence de temps, une marche de leur montre qui était sans doute trop importante et qui avait un petit peu faussé leur observation. Voilà, j'étais un petit peu long aussi, mais ça me permet de vous indiquer qu'aujourd'hui, le temps, c'est une référence essentielle pour la navigation. Et je suis en mesure aussi de vous indiquer pourquoi c'est aussi essentiel pour tout le reste, c'est-à-dire la conduite des opérations. On ne va pas en mer uniquement pour mesurer notre point, mais on va en mer pour y conduire des missions.
Alors justement, petite parenthèse historique, nous en avions parlé tous les deux. Alors si la géographie, ça sert avant tout à faire la guerre, le temps est lui-même utilisé, j'allais dire, dans toute guerre comme référence. Songeons au 6 juin 1944, débarquement qui devait être prévu le 5 juin et qui, grâce au service météorologique allié, a été repoussé de 24 heures pour la bonne et simple raison qu'on s'est rendu compte qu'une tempête approchait et qu'il y aurait un laps de temps très court où ça se calmerait et où on pourrait envoyer la totalité de la flotte. Donc Eisenhower a joué finalement sur ce temps-là en se disant bah, à ce moment-là, on peut envoyer la totalité de nos forces. C'était un peu, j'allais dire, entre guillemets, un coup de pile ou face. Nous parlions également de la bataille de Midway. La bataille de Midway qui met en scène justement, qui brise totalement la volonté belligérante des Japonais, qui essayaient depuis leur victoire de Pearl Harbor d'écraser définitivement l'adversaire, perdent l'équivalent de 10 à 30 minutes en se demandant s'ils doivent équiper leur avion de torpilles ou de bombes pour pouvoir attaquer les navires en face. En perdant ces 10 à 15 minutes, ce qu'ils ne savent pas, c'est que de l'autre côté, la flotte alliée a déjà envoyé ses avions, que les avions en éclaireur arrivant sur la fin de temps au niveau de leur essence décident envers et contre tout de continuer à avancer, repèrent la flotte ennemie et se sacrifient littéralement en se jetant dessous pour pouvoir permettre justement à la flotte beaucoup plus loin de voir qu'il y a eu impact, qu'on a rencontré l'adversaire et qu'on peut le situer par rapport à ça. Le temps, c'est aussi une constante, justement, dans la bataille. C'est souvent quelques millisecondes à quelques minutes qui vous permettent d'écraser définitivement l'adversaire. À ce niveau-là, nous l'avons toujours, j'allais dire actuellement, que ce soit au niveau des opérations que nous menons, vous parliez justement de la mission Harmattan, ou actuellement des missions en cours. Est-ce que vous pouvez développer justement ceci ? À quel point, justement, la marine se projette finalement de plus en plus rapidement et essaye, je vais dire pour faire mentir le fameux dicton, l'armée se prépare toujours à la future guerre avec une guerre de retard, d'avoir justement quelque chose de, bah, j'allais dire, un, si ce n'est pas trois coups d'avance.
Bah, en opération, le temps, c'est l'initiative. Le temps, c'est garder la surprise de son côté. Il n'y a pas de pire cauchemar pour un marin, et a fortiori pour un chef d'escadre, que de se faire surprendre en étant en mouillage, et puis l'adversaire qui évidemment, étant manœuvrant, peut faire profit de son armement et envoler la flotte adverse au fond. Quelques exemples dans l'histoire. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde très connecté, où l'information est très largement recueillie, parfois partagée bien sûr quand elle est ouverte, mais échangée plus souvent quand il s'agit de renseignements. Et on est très attentif à pouvoir effectivement disposer de la meilleure information. Mais la meilleure information...
À ce niveau-là, si vous me permettez, pendant les opérations en Libye, j'ai lu qu'on avait été, pour ainsi dire, les premiers, y compris au niveau de nos alliés américains, à avoir développé et utilisé un système, justement, un pod de nouvelle génération qui permettait de recevoir, alors je dirais pas quasi en temps réel, mais tout un tas de données par rapport justement à la cartographie ou autre, que nous pouvions analyser d'autant plus vite par rapport à l'adversaire.
Voilà, c'est-à-dire que par rapport à la période évoquée, Midway, Pearl Harbor, etc., où finalement les choses se comptaient en heures ou en minutes dans la phase tactique pour avoir l'avantage, aujourd'hui, dans l'action, on en est plutôt à la minute et à la seconde. Et donc, chaque minute compte. Effectivement, on dispose dans les armées françaises, armées de l'air et aéronavales de la Marine nationale, on dispose sous le Rafale d'un pod d'observation qui donc a une excellente résolution et permet d'observer tout ce qui se passe sur l'eau ou à terre et qui, surtout, nous permet... à une certaine distance d'un récepteur, qui peut être sur le porte-avions, sur une base aérienne, etc., de décharger ce qu'il a ramassé au cours de sa moisson. Et donc, avant même que l'avion revienne, se pose à bord ou à terre, eh bien, les analystes sont déjà en train de regarder ce qui est sorti de cette récolte, je dirais, pour derrière pouvoir déjà faire partir les avions armés et atteindre des objectifs qui parfois sont très sensibles au temps. D'ailleurs, il y a un acronyme qui, dans le vocabulaire OTAN, qui dit bien ce que ça veut dire, mais les Time Sensitive Target, les TST, hein, ça peut être des objectifs qui vont se sortir et se rendre visibles très très peu de temps. Ça peut être des objectifs comme des véhicules blindés, mais c'est parfois même des individus. Lorsque l'on fait la guerre au terrorisme, quand on lutte contre le terrorisme, pour être plus exact, et que l'on cherche à atteindre certaines personnes, on sait que ces personnes-là, pour pouvoir les neutraliser en parlant politiquement correct...
Vous avez une fenêtre de temps très courte.
Et donc là, il faut qu'à partir du moment où on a un indice de présence et de vulnérabilité potentielle de l'adversaire, il faut tout de suite frapper. Donc les boucles courtes de renseignement et les boucles courtes observation, décision, action et puis évaluation de l'efficacité de l'action, tout ça, on cherche à le raccourcir. Donc nous, aujourd'hui, on est moins dans un schéma d'heures et de minutes, mais beaucoup plus dans un schéma de quelques secondes. Et je vais vous montrer une image qui est certainement pas très, très visible du fond de la salle. Mais là, vous avez une image de ce que, sur un opérateur dans un central opération de frégate, voit devant lui lorsque son bâtiment, là c'est une image qui est prise par un bâtiment français au large de la Syrie il y a quelques mois. Hein. Et donc ça vous montre quoi ? Ça vous montre d'abord que c'est extrêmement complexe, très lourd, très chargé, et qu'effectivement c'est pas évident pour un profane de comprendre ce que ça signifie. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, je peux vous assurer que ça, c'est le résultat du travail non seulement de la frégate française que j'évoque, mais de tout un réseau national avec un AWACS de l'armée de l'air, avec un réseau allié aussi, puisque connecté avec nos partenaires américains et d'autres pays européens, on est en mesure de juxtaposer ce que chacun voit pour en faire un patchwork précis, le plus complet possible, le plus fidèle possible à la réalité et surtout qu'il soit unique. C'est-à-dire que la façon dont nous, on voit tel objet de l'adversaire à tel endroit, à tel moment, eh bien, il faut que ce soit exactement la même perception par un de nos alliés
qui lui est dans son avion de chasse ou dans son avion de guet aérien. Il s'agit qu'à tout moment, on puisse faire une même appréciation de situation. Sinon, c'est quoi ? C'est des conflits qu'il faut régler, des conflits de position. Bien, moi, je le vois là, toi, tu le vois là. Et est-ce qu'on est sûr qu'on parle du même objet ? Est-ce qu'il n'y a pas deux objets ? Donc ça, c'est de la perte de temps et d'énergie. Ça peut être des conflits d'identité. Là, en bleu, vous avez des aéronefs militaires, par exemple. Eh bien, en vert, vous avez des aéronefs, des avions civils, des avions de ligne. Si jamais on se trompe et que, évidemment, on prend un avion de ligne pour un avion militaire, vous voyez très bien derrière les risques qu'il peut y avoir pour les passagers de l'avion de ligne, par exemple. Donc il faut être très très attentif à ne pas faire d'erreur dans la classification, dans l'évaluation de la nature des objets. Et ça, ce n'est pas un travail que vous faites seul, c'est un travail que vous faites à plusieurs. Et l'élément essentiel pour être en mesure de faire ce travail à plusieurs, c'est la référence temps. C'est la datation précise de toutes les détections, de toutes les mises à jour de ces positions. Et tout ça se fait évidemment par des horloges qui sont cohérentes les unes avec les autres. Donc il faut avoir en permanence un calage spatio-temporel complet entre tous les membres du réseau. Donc ça, c'est finalement à ce niveau-là, on est bien dans la seconde, voire dans la milliseconde. Je rappelle que le GPS, hein, c'est en nanosecondes que ça se passe, les constantes de temps pour avoir des positions qui soient précises en mètres telles que aujourd'hui on y est habitué. Et donc ça, c'est vraiment tout à fait important que nous puissions travailler là-dessus et être certain qu'à tout moment, on a une grande confiance dans cette référence de temps. Voilà.
Alors pour le coup, votre carte est magnifique parce qu'on a vraiment l'impression de regarder un space opéra. C'est quasiment une bataille spatiale aux confins de l'univers. Alors on parlait justement de, toujours pour rester dans la référence temps et au niveau de l'information, comme vous le dites, cette carte c'est un instant T. Qu'est-ce qui empêche finalement un adversaire de pouvoir et à la fois brouiller, commencer à créer justement des bips fantômes, commencer à submerger l'adversaire d'informations, voire même camoufler l'état de certaines de ses forces, et ainsi de suite?
Là, on est dans les vieux principes de la guerre classique hein, qui sont toujours valables depuis Sun Tzu. Hein. C'est-à-dire que il y a plein de modes d'action qui sont possibles pour compliquer l'appréciation de la situation par une partie, que ce soit nous, avec nos alliés, ou l'adversaire. N'oublie pas en plus que les personnes, dans une logique un peu d'asymétrique, là, ce dispositif-là, je parlais des Américains, d'armée occidentale, on est techniquement quand même, il faut le reconnaître, en situation de supériorité, et l'adversaire, lui, compense cette supériorité par des modes d'action qui, par exemple, conforme aux valeurs qui sont les nôtres, avec l'usage de la terreur et tout ce que vous imaginez. Donc, dans cette affaire-là, l'adversaire en question, il ne se contente pas, malheureusement, de couper les têtes. Enfin, on a eu des scènes d'horreur tout à fait, évidemment, insupportables. Mais il est aussi très, très imaginatif, je dirais, au plan technique, pour essayer de se défendre. Et aujourd'hui, j'évoquais par exemple les signaux de navigation par satellite. Un signal de navigation par satellite, eh bien, ça se brouille. Ça peut se brouiller pour empêcher que les récepteurs de l'armée d'en face soient en mesure de mesurer une position précise. Ça peut se brouiller de façon plus pernicieuse en faussant légèrement le signal pour que la plateforme, un bateau, un avion d'une armée donnée ait l'impression d'être à un endroit alors qu'elle n'y est pas tout à fait, qu'elle soit à quelques centaines de mètres d'écart. Et là, forcément, c'est lourd de conséquences parce que n'oublions pas qu'on a certains armements qui peuvent être guidés par nos propres systèmes de navigation. On donne une coordonnée à une bombe qui va aller taper précisément cette coordonnée. Donc si votre position de référence à vous, elle est légèrement décalée, forcément, à l'arrivée, votre bombe, elle va tomber de façon potentiellement décalée aussi. Donc là, il faut être très, très attentif à tout ça. C'est pour ça que, comme je le disais en début de propos, on s'attache, nous, à garder un moyen de navigation de référence indépendant de ce qu'est les sollicitations, enfin des contributions externes. Donc on est parfaitement en mesure de vérifier que ce que, par exemple, on entretient par commodité, parce que le GPS ou Galileo ou les systèmes russes, chinois, etc., c'est extrêmement facile et commode. On a ça maintenant sur ces machines pour vérifier à tout moment qu'il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de dérive et il n'y a pas de déformation de ce signal. Et demain, à mon avis, il faudra qu'on soit extrêmement attentif aussi à ce que les horloges, à ce que les oscillateurs qui fixent la référence temps ne sont pas eux-mêmes finalement induits en erreur par des actions d'agression, des actions malveillantes pour que eh ben, là aussi, on ait ces belles images, même si elles sont lourdes et compliquées, qui deviennent plus floues, qui, ben voilà, qui est par exemple trois symboles pour un seul vrai objet dans l'air, si jamais, au bout d'un moment, on a cette perte de précision. Donc là, c'est un domaine dans lequel nous, quand je dis nous, c'est France et alliés, on est très vigilants. Il y a des vraies doctrines qui sont réfléchies pour ce qu'on appelle de manière globale le positioning, navigation and timing. Vous voyez bien que tout ça est associé. Le timing, c'est important. Le timing, c'est important pour l'appréciation de situation. Le timing, c'est aussi important pour pouvoir passer à la phase plus offensive. Et donc là, je vous montre des armements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec précisément ces moyens très automatisés, très autonomes, vous pouvez faire arriver sur un même objectif plusieurs armes, plusieurs missiles, plusieurs bombes guidées à la même seconde. Et donc, vous pouvez saturer les défenses de l'adversaire. L'adversaire arrivera peut-être à neutraliser un ou deux missiles, mais s'il y a 10, 20 missiles qui arrivent au même moment, forcément, il y en a qui passeront à travers les défenses. Donc, La possibilité de synchroniser, on est bien là encore dans la maîtrise du temps, la possibilité de synchroniser le moment d'une attaque, c'est aussi un gage d'efficacité offensive. On peut aussi parler des retards d'armement. Sur l'image en bas à droite, vous avez une image d'une frappe d'une bombe guidée précisément, hein, en bas à gauche. Et vous voyez qu'on est déjà en train de désigner l'objectif qui est à droite. Eh bien, si c'est un objectif fortement durci avec des couches importantes de béton et qu'à l'intérieur, il y a des objectifs de haute valeur, on pourra utiliser des armements dont le retard entre le moment où il touche l'objectif et où la charge détonne est finement mesuré pour être certain qu'on va bien aller détonner une fois que par l'effet cinétique, le projectile a traversé les couches de béton. Il y a même des systèmes à double charge. Donc vous voyez bien que là aussi, le temps en termes de retard, cette fois-là, hein, retard, le temps était également tout à fait important. Et je terminerai juste pour montrer qu'on est toujours dans une dialectique là, de défense et d'attaque. Lorsque l'on va vers des missiles de plus en plus performants, ben voilà, il y a des intelligences qui permettent des attaques saturantes, je l'évoquais, mais il y a aussi des missiles, par exemple, qui vont de plus en plus vite. On a maintenant des missiles hyper-véloces dont on voit bien que dans la décennie qui vient, on aura des missiles qui vont à plus de Mach 5, par exemple. Bon ben, pour un marin, un missile à Mach 5 qui vole bas, eh bien, il nous reste 10 secondes pour réagir au moment où il sort de l'horizon. Donc voilà, vous avez 10 secondes pour vous rendre compte qu'il y a une menace qui arrive, que c'est vraiment une menace et que ce n'est pas ben voilà, un avion de ligne, par exemple, hein, pour faire la part des choses et vous assurer que vous allez prendre une bonne décision et pouvoir mettre en œuvre des défenses, que ce soit des mesures actives de défense, en tirant nous-mêmes, par exemple, un armement pour détruire ce missile, ou en leurrant ce missile, ou avec tout un tas de parades dont nous disposons. Mais les temps sont extrêmement courts, et ça signifie que derrière, forcément, il faut avoir des automatismes qui sont performants et fiables et correctement maîtrisés, parce que l'idée, c'est toujours que l'homme reste dans la boucle et qu'on arrive à maîtriser convenablement cette violence. Il ne faut pas oublier que c'est ça au départ.
Alors justement, j'aurais deux dernières questions par rapport à tout ce qui se vient de dire. La première concernant les machines et la dernière concernant l'homme. Au stade où nous en sommes actuellement, justement, la référence temps risque, comme vous le dites, d'être, j'allais pas dire faussée, mais on risque d'arriver de plus en plus à la milliseconde, que ce soit au niveau de la création d'ordinateurs quantiques qui travailleront de plus en plus vite, justement, pour pouvoir expédier que ce soit des missiles ou autres. L'armée américaine est en train de développer, si je ne me trompe pas, un canon électromagnétique et fait des essais de son côté. On retombe finalement aussi sur d'anciens vieux fantasmes, que ce soit des rayons de la mort propres à Tesla ou à la volonté de rendre des flottes ou des moyens complètement invisibles, tout comme on pouvait l'imaginer dans un film qui était l'expérience Philadelphie, film des années 80, où on tentait de faire disparaître un navire, j'allais dire, de tout système radar et qui faisait, pour le coup, un bond de 1942 jusqu'à 1983. C'était un élément de science-fiction assez intéressant, mais où, comme vous dites, on essaye de plus en plus, à partir du moment où on donne un ordre, où on appuie sur un bouton, la référence temps, on rentre dans la milliseconde, la machine obéit de plus en plus vite. On en arrive à ça, finalement.
Oui, alors, on va bien plus vite encore que la milliseconde. Quand je suis entré dans la marine, il existait déjà des systèmes qui, si on mettait tous les automatismes sur ON, permettaient de détecter une menace, de se rendre compte que c'était une menace
Et bien sûr, si les systèmes d'armes étaient branchés, l'artillerie avec des munitions chargées, pouvait déclencher des parades automatiquement sans action de l'opérateur. Et donc là, effectivement, on était déjà dans des séquences où les cadences de mise à jour de l'information étaient à peu près 200 millisecondes. Je vous en parle, c'était il y a 30 ans. Évidemment, par le jeu des progrès en termes de calculateurs, les choses vont beaucoup plus vite, même si, comme on l'évoquait tout à l'heure, les constantes de temps qui restent à la disposition du cerveau humain, ça reste encore quand même de la seconde. J'évoquais ces 10 secondes, 10-11 secondes pour un missile de l'ordre de Mach 5. C'est 10 secondes, il ne faut pas se tromper, mais ça vous laisse encore le temps quand même de faire une rapide analyse. Mais il ne faut pas se tromper. Et il faut avoir les bons verrous. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on n'a jamais, en tout cas, je veux parler sur les unités sur lesquelles je servis, on n'a jamais tous nos automatismes qui sont libérés, qui sont sur on. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe devant nous? Qu'est-ce qu'on a? On a devant nous des calculateurs de plus en plus puissants. Tous nos systèmes maintenant, que ce soit système de communication, système des capteurs, les radars, les gros calculateurs qui déroulent ces algorithmes d'évaluation de situation, les systèmes d'armes eux-mêmes ont des calculateurs extrêmement puissants. Ces calculateurs sont fédérés en réseau à bord, puisque même maintenant, la conduite de la machine, le contrôle des installations de sécurité repose de plus en plus sur des automatismes. Ces moyens-là sont aussi connectés vers l'extérieur à travers ces réseaux de transmission de données à très haut débit pour permettre d'établir les images que je vous ai montrées, les images tactiques complètes, précises, uniques et fidèles, comme je l'ai évoqué. Et tout ça, demain, avec quoi? Avec des calculateurs de plus en plus puissants, avec l'appui sans doute de plus en plus accru à l'intelligence artificielle, qui nous permettra de sortir de ces espèces de grosses images compliquées, quels sont les comportements qui ne sont plus anodins, qui sont des comportements qui doivent attirer l'œil et sur lesquels il faut se poser des questions, parce qu'on est quand même dans des mondes apparemment complexes. L'image que je vous ai montrée tout à l'heure, cette image-là, eh bien, elle est relativement simple, parce que vous avez sur ce scope uniquement des contacts aériens et des contacts de surface, des bateaux. Or, avec la numérisation de l'espace de bataille aéroterrestre, nos camarades de l'armée de terre accèdent à des images qui commence à ressembler à ça, aussi à terre. Or, à terre, c'est le lieu de notre vie quotidienne. Et vous avez certes des acteurs malfaisants ou des véhicules béliers, par exemple, pour prendre ou des moyens militaires, des blindés, ce genre, ou des hélicoptères de combat. Enfin bref, tous ces acteurs militaires, mais qu'il faut positionner précisément. Mais c'est parfois des groupes de combat adverses. C'est parfois des terroristes qui ressemblent finalement pas tellement à un combattant classique. Cette compréhension de l'environnement qui va dépasser les limites classiques terre, mer et puis surface, air, eh bien, cette compréhension de l'environnement, elle va être de plus en plus évidemment compliquée parce qu'on aura de plus en plus d'objets d'intérêt ou d'objets pour lesquels il faut se poser des questions. On s'appuiera là sur cette mise en réseau, mais en même temps sur une présentation sur mesure de l'information à tel ou tel poste de responsabilité en fonction de la mission, de la tâche qui est la vôtre. Donc on va customiser, on va finalement présenter à chacun une image qui est celle qui l'intéresse pour la fonction qu'il exerce. On a tout à fait la possibilité d'appliquer des filtres, de pouvoir évacuer les pistes qui ne nous intéressent pas avec des tas de moyens qui sont attachés à ces consoles. Et demain, ça sera encore plus développé. On aura l'intelligence artificielle qui nous aidera à finalement faire un peu le tri, je l'espère, si on arrive à bien l'éduquer, entre l'ivraie et le bon grain. Et puis après, effectivement, quand on ira vers des calculateurs encore plus puissants, là, je ne suis pas du tout un spécialiste des calculateurs quantiques, mais on arrivera, je pense, à des exigences tout à fait aussi fortes de maîtrise de la notion de temps, parce que la rapidité des process sera telle que si jamais, pour reprendre l'image qui est là, le bateau A accède à une information très précise, très très vite, et très très vite, c'est peut-être 3 secondes avant un bateau B d'un autre pays, mais qui est dans le même réseau, qui participe à la même opération, dans le même camp, entre guillemets, eh bien, forcément, il y aura des difficultés pour que le bateau A et le bateau B aient la même appréciation de situation. Donc on a un travail d'interopérabilité, comme on dit entre nous, c'est-à-dire une aptitude à coopérer ensemble qui va être rendue aussi plus complexe, d'où la nécessité d'avoir des canons, des standards. Je n'aurais pas dû utiliser des canons, des standards, des normes qui soient partagées. Et c'est principalement aujourd'hui l'OTAN qui nous fournit ces normes d'interopérabilité, d'aptitude à coopérer ensemble. mais plus ça va aller et plus ça va être compliqué d'arriver à les faire vivre et les faire évoluer de manière coordonnée, sans même parler des enjeux industriels, de propriété intellectuelle et de concurrence entre des grands acteurs des nouvelles technologies. Donc là, on a un défi qui est devant nous. L'essentiel, nous, militaires, ce n'est pas d'apporter les réponses techniques, ce n'est pas notre métier, c'est qu'on soit capable de bien dire les effets que l'on veut pouvoir produire sur les théâtres d'opération et ce qui est important pour qu'on garde la maîtrise de nos systèmes et qu'on puisse, en parfaite cohérence avec les directives politiques qui nous sont données, obtenir les résultats que nos chefs nous demandent d'obtenir.
Et ma dernière question, justement, c'est que derrière toutes ces machines, ces outils ou autres, il y a des hommes et des femmes finalement qui servent. Donc pouvez-vous, un peu plus au niveau de la Marine nationale, quelles sont vos attentes ? Comment vous projetez-vous justement dans le futur à ce niveau-là ?
Ah ben, vous me donnez l'occasion de mettre une petite planche, c'est juste pour avoir des personnes sur l'image, parce que voilà, on a vu que des machines, on va finir avec une dimension un peu plus humaine. Je pense que j'ai quand même déjà un peu dit quand même qu'il fallait que l'individu, le chef militaire, l'opérateur, reste quand même dans tous ces processus à une place qui soit une place importante. Je pense qu'on a beaucoup de spécialistes de la science-fiction, beaucoup plus spécialistes que moi, mais moi, les choses que je vois, c'est rare de voir des films, des œuvres complètement désincarnées, où il n'y a vraiment que des robots et à aucun moment, il y a une petite place à ce qui ressemble à une forme d'intelligence humaine ou du moins un degré de raison, on va dire, un degré d'esprit critique et de libre arbitre. Nous, aujourd'hui, la Marine nationale, bon, c'est 39 000 personnes, dont à peu près 35 000 militaires, hein, il y a à peu près 4 000 civils aussi. C'est une quarantaine de métiers. Et tous ne sont pas concernés par ces enjeux-là, évidemment, au quotidien. Le cuisinier sur un bateau, Dieu merci, il prend encore le temps de surveiller la durée de cuisson convenablement. Néanmoins, vous voyez un certain nombre d'opérateurs qui sont dans les centres opérations ou qui sont en termes de navigation, eux, de plus en plus, sont soumis effectivement aux problématiques que j'ai évoquées. Prendre l'image du milieu en bas, un opérateur dans un central opération, aujourd'hui, il passe à peu près les trois quarts de son temps à précisément construire la belle image tactique que je vous ai montrée et être certain que c'est une image qui est aussi représentative et aussi exacte que possible par rapport à la réalité. Parce qu'on a quelque chose de virtuel, mais derrière, c'est la vraie vie. C'est des personnes, c'est des gens qui conduisent des actions. Il faut être capable de décrypter tout ça. Il faut être capable de définir ce qu'on appelle, nous, les « patterns of life », c'est-à-dire, en gros, les comportements, ce que chacun fait, quelle est sa mission à lui, adversaire principalement, ou élément neutre, ou élément suspect parfois, et être capable éventuellement de se rendre compte. Par exemple, sous un avion de ligne, il y a peut-être aussi un autre avion militaire qui, au dernier moment, va se séparer et va se rapprocher de notre force avec un préavis très faible. Alors nous, aujourd'hui, Faut être honnête, on a des opérateurs qui sont extrêmement performants chacun dans leur spécialité. Pour la marine, ce qui est absolument essentiel, c'est, comme pour toutes les autres armées, c'est d'avoir des hommes et des femmes jeunes. Nous, la moyenne d'âge dans la marine nationale, c'est 33 ans. Jeunes, pourquoi ? Parce que voilà, ils sont capables, beaucoup mieux que moi, de rester au fait de tout ce qui évolue et de tout ce qui se passe. Ils sont capables aussi de progresser rapidement au plan technique, puisque le jeune matelot qui est avec son bachis que vous voyez là au milieu, qui entre dans la marine, en moins de 3 ans, va se retrouver potentiellement derrière une console avec un système d'armes et à peu près en 9 ans, va être déjà en mesure d'avoir une compréhension système, une compréhension fonctionnelle globale du système d'armes qu'il utilise. Et aussi de la façon dont son système à lui s'intègre dans un ensemble plus vaste. Donc inévitablement, une bonne partie de ce qu'on a évoqué aujourd'hui va voir des applications. Enfin, il est en mesure, il faut qu'il soit en mesure de les comprendre. Donc on a une dynamique de progression fonctionnelle assez élevée. On a des gens qui n'ont pas forcément, qui ont un niveau de formation assez important, hein, puisque nos officiers mariniers. Alors, on a trois grandes catégories, hein, les officiers, les officiers mariniers et les matelots et marins. Eh bien, aujourd'hui, un officier marinier, en général, rentre avec un niveau Bac plus 2. Et c'est eux qui, très vite, vont accéder à ces niveaux de compréhension de techniciens supérieurs en 9 ans à peu près et être en mesure de pouvoir faire cette juste appréciation, bien sûr, en étant dans un dialogue et une progression continue. Donc, nous, ce qui est important au plan humain pour arriver à répondre à ces objectifs, d'abord, on a l'avantage d'être très engagé en opération. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, tous les marins de la force d'action navale que j'ai l'honneur de commander le vivent. Donc, on se conscience de ce que, de comment il faut être au rendez-vous de tout ça. Deuxièmement, il est parfois un peu intimidant pour eux quand ils arrivent au début de leur carrière de se dire, oh là là, un jour, il faut que je sois capable, comme mon chef, d'appréhender tout ça et d'être entre mesure de le restituer, de le partager, et moi-même de former les plus jeunes marins qui arrivent. Mais la bonne nouvelle, et en particulier pour boucler avec la FREM Auvergne, la frégate qui est actuellement en mer de Chine, c'est que ces bâtiments extrêmement automatisés sur lesquels l'équipage, on l'a fait fortement diminuer, il n'y a plus que 107 personnes sur ce bateau, alors que la génération d'avant, vous aviez 240 personnes. Donc on a divisé par deux grâce à tous les automatismes, aussi un peu pour faire des économies d'ailleurs, mais il y a une charge mentale et une charge qui est assez forte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des marins qui s'y épanouissent énormément parce qu'ils leur ont laissé une très large autonomie et ils ont une marge très forte dans la façon dont ils agissent pour peser sur le cours des événements. Donc le pari est plutôt réussi, mais en même temps, nous, il faut qu'on arrive à alimenter ces flux, c'est-à-dire qu'on arrive à recruter, d'où d'ailleurs ces panneaux, qu'on arrive à recruter pour trouver des gens qui ont envie de s'inscrire dans ces dynamiques-là, de connaître ces scénarios-là, malgré ce que j'évoquais tout à l'heure, malgré l'éloignement, malgré la déconnexion numérique, ou en tout cas la moindre connexion numérique, et le fait que c'est quand même un métier un peu exceptionnel et extraordinaire. Voilà.
Eh bien, Amiral, merci à vous. Je pense que maintenant, de part et d'autre, j'allais dire nous ici et vous là-bas, c'est les deux mondes ne sont plus aussi science-fictionnels qu'on peut l'imaginer. Alors nous avons juste un peu de temps pour quelques questions. Oh ben dis non. Bonjour.
Bonjour. Juste une petite question. Pouvez-vous ce qui vous enthousiasme le plus et au contraire ce que vous redoutez le plus dans l'évolution, que ce soit des types d'armement ou des types de conflits à venir, ce que vous envisagez?
En dehors de l'oblitération complète.
Je réponds tout de suite à la question. Je ne sais pas avant. Moi, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est, je pense, qu'on est en pole position dans la marine nationale, enfin, les armées françaises en général, mais dans la marine nationale en particulier. C'est-à-dire qu'on est une marine qui est très engagée en opération. On dispose d'équipements qui, il faut le reconnaître, sont très performants parce qu'on a une industrie de défense en France qui est quand même très, très, très efficace. Et puis surtout, on est un peu, on travaille de façon très intégrée en intermilieu. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le milieu terrestre, le milieu aérien, le milieu naval, tout ça, c'est en train de se fondre. Il n'y a plus de cloison. Et comme on est une puissance moyenne au plan militaire, moi, mes camarades qui travaillent dans l'armée de l'air ou de l'armée de terre, je les connais. Et on s'entraîne ensemble. Et donc, on a une aptitude, je pense, à faire face à ces défis défis informationnels et aux prochains enjeux de la conflictualité en mer, à mon avis, avec un vrai avantage compétitif par rapport à d'autres pays qui sont moins engagés en opération. Alors attendez, c'est pas une finalité en soi, hein, mais les opérations qu'on conduit, c'est vraiment des opérations que, je pense, sont assez conformes aux valeurs que notre pays veut défendre. Hein, quand on se bat contre Daesh, bon voilà, quand on se bat pour le droit de la mer, quand on protège nos intérêts ou les intérêts des pêcheurs ou la lutte contre les pollutions, dans tous les champs, c'est assez facile, on est assez légitime. Et donc ça, c'est ce qui m'enthousiasme le plus. Ce qui m'inquiète, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est, est-ce qu'on arrivera toujours à amorcer la pompe en termes de ressources humaines pour trouver les compétences, et dans un monde qui évolue beaucoup, où effectivement, c'est quand même pas simple de partir dans le grand large, de partir longtemps, de s'éloigner de ses proches. Or, c'est passionnant. Je veux dire, bon, moi, j'ai vécu 18 ans embarqué sur ma carrière de 30 et quelques années. Ma femme trouve que j'ai souvent été pas là, c'est vrai, mais je pense que familialement, on a tout à fait pu trouver un équilibre extrêmement... je m'en suis satisfait et je suis toujours avec celle que j'ai épousée il y a 30 ans. Donc, on peut tout à fait concilier, à mon avis, un mode de vie assez exceptionnel comme ça et une façon de vivre, une vie privée. Mais néanmoins, je comprends que les jeunes puissent se poser la question. Donc, je suis là aussi, même si je suis un peu d'une autre génération, pour témoigner de ça. Mais si on répond à ce défi humain... J'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'on arrive demain à être à la hauteur des enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure.
Oui, bonjour. Merci pour la rigueur de votre intervention, rigueur toute militaire d'ailleurs. J'avais deux petites questions. La première, c'était avec l'intégration de la France dans le commandement de l'OTAN. Comment vous avez pu trouver justement des références temps communes sur autant de pays différents, autant de procédures militaires différentes, de manières de faire? Et la deuxième, c'était, vous avez fait référence tout à l'heure à avoir une guerre de retard ou d'avance, justement sur les guerres du futur, voire proches. Comment vous imaginez ces guerres? Comment vous entraînez pour ces futures guerres, ces futurs conflits?
Alors sur la première question, on a vu les choses évoluer. Alors d'abord, les standards que l'on avait avec l'OTAN, on les avait, Dieu merci, jamais abandonnés. C'est-à-dire que si nous n'étions pas dans le commandement militaire intégré, on s'en était éloigné, vous le savez, depuis la décision du général de Gaulle, on faisait quand même partie de l'Alliance Atlantique. Et donc, toute la façon de travailler avec nos partenaires, surtout l'armée de l'air et la marine, qui étions les deux armées les plus en interface, et ayant besoin de faire un ravitaillement en vol, ou quand une frégate va ravitailler sur un pétrolier ravitailleur américain ou britannique, il faut que les tuyaux ils arrivent à se brancher les uns avec les autres, que nos procédures, sans même aller sur des systèmes compliqués comme les moyens de communication, il fallait qu'on sache travailler ensemble. Donc, quand je suis entré dans la marine, on donnait des top horaires réguliers pour se synchroniser. Donc, vous voyez, on était quand même à la seconde. On se faisait des calages de grilles lorsque nos référentiels XY ou FI et G, ça dépendait, pour reporter les positions et qui ne se faisait pas par façon de transmission de données sur les vieux bateaux, ça se faisait un peu à la main avec des crayons. Maintenant que tous nos systèmes sont interconnectés par les liaisons de transmission de données, ces références positions, ces références temps se font de façon beaucoup plus automatisée et maintenant c'est plus un souci depuis qu'en gros on a ces référentiels temps par le GPS américain historiquement, maintenant on va aller vers du Galileo, mais historiquement c'est plutôt le GPS, dans des modes militaires cryptés. Mais avec toujours ce risque qu'à un moment donné, on le perde. Et donc, c'est pour ça que là aussi, les défenses, je ne vais pas entrer dans des domaines qui sont techniques et classifiés, mais on entretient et on monte en gamme pour être de plus en plus robuste de ce point de vue-là. Ça, c'est sur la première question. Alors, sur la deuxième question, pour être tout à fait honnête avec vous, moi, comme commandant de la force d'action navale, je suis chargé de préparer les bâtiments de surface pour leurs opérations. Donc d'avoir des équipages qui sont complets, d'avoir des vivres à bord, des munitions, que les capteurs, les machines, tout ça, ça marche bien. Et après, ces bâtiments, je les mets à la disposition d'une chaîne opérationnelle interarmée, d'ailleurs, d'emploi. C'est eux qui leur donnent leur mission pour aller, tiens, toi, tu vas aller au large de la Syrie, toi, tu vas aller en mer de Chine, etc. Et moi, bien sûr, je regarde la façon dont ils font leur mission, et puis s'il faut, j'adapte les doctrines, les procédures et la façon dont on les entraîne pour qu'ils soient encore plus performants la fois d'après. Mais donc, aujourd'hui, il faut être honnête que cette boucle-là, Elle est beaucoup plus dans le temps des deux, trois ans qui sont devant nous. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que mes préoccupations, elles sont beaucoup plus sur le fait qu'on a des groupements qui sont non étatiques, qui maintenant mettent en œuvre des armes que nous, on appelle de déni d'accès, c'est-à-dire des armes qui, des missiles lourds qui vont loin. Souvenez-vous de l'avion de ligne néerlandais qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine. Il volait haut. Et c'était quand même des missiles solaires moyenne portée qui sont d'habitude pas mis en œuvre par des organismes qui ne sont pas des armées. Là, en l'espèce, ça a été mis en œuvre. On a des moyens similaires qu'on a vu mis en œuvre au large du Liban en 2006 et cette année, dans Bab el-Mandeb, le détroit qui ouvre la mer Rouge, les milices houthis qui se battent au Yémen, ces milices ont mis en œuvre des moyens extrêmement performants avec des objets téléopérés. Donc des navires de surface sans équipage qui venaient harceler les moyens navals classiques. Et puis à un moment donné, il y en a un qui arrive à 180 degrés de l'autre bord et qui lui est chargé d'explosifs et vient exploser contre la coque, 7 morts. Donc si vous voulez, on est sur des modes d'action maintenant qui sont assez évolués, qui étaient plutôt réservés à des organismes très structurés de type armée et qui maintenant prolifèrent. Moi aujourd'hui, la façon dont très concrètement j'entraîne mes équipages, c'est ça. Dans mes fonctions précédentes, où j'étais à l'état-major des armées chargé de préparer l'avenir en termes d'équipement pour l'ensemble des armées, enfin pour toutes les armées, eh bien là, on avait travaillé en réfléchissant à 15 ans sur quels étaient les effets que l'on voulait pouvoir produire sur les théâtres d'opération. Voilà.
Alors, le facteur temps nous a malheureusement rattrapés. Donc, je suis désolé, nous n'allons pas pouvoir prendre de nouvelles questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre intérêt. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon festival.